Je te ferai présenter un petit. Nous avons vu au chapitre 3 comment Louis Dia dépassait le point de vue du sujet. Or, n'oublions jamais qu'au point de vue proprement logique, nous avons le point de vue du sujet et le point de vue de l'attribut. N'est-ce pas? Si je regarde les catégories. Les catégories. Alors, au point de vue des catégories. Donc, au point de vue logique, nous avons une grande opposition, une grande distinction entre substance première, sujet, substance second, le point de vue de ce qu'on représente l'espèce et le genre. N'est-ce pas? Je ne sais pas qu'on va faire le tour, parce que c'est vrai que c'est très peu qu'on va faire le tour avec ça. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez? C'est sûr que ça va passer. Bon. Alors, si nous distinguons donc les deux aspects, substance, sujet et le substance attribut, nous avons cette première vision logique du point de vue du sujet et du point de vue de la physique. Je crois que la réflexion métaphysique consiste à essayer de comprendre que l'ousia est au-delà du sujet et au-delà de ce qu'on représente la physique. C'est ça? Donc, l'ousia est au-delà du sujet, chapitre précédent, et l'ousia est au-delà de la physique. Mais voyons bien, ce n'est pas la première intention, c'est logico, précisant à l'intérieur de l'Eidos. Donc, à l'intérieur de l'Eidos, on précise que l'aspect logikos est l'aspect de l'attribut, et on va montrer qu'on ne peut pas ramener l'ousia à l'attribut. Vous voyez dans quel sens? C'est-à-dire au katoto. Et qu'il est bien là en premier lieu, mais il y a quelque chose qui va plus loin. Alors, je crois qu'il faut se poser cette question-là. Vous voyez, autrement dit, si vous voulez, parce que c'est toujours très difficile. Alors, j'ai mis là encore une fois des hypothèses de recherche. Et il faut émettre une hypothèse de recherche, comme toujours, quand on cherche quelque chose, il faut avoir une certaine hypothèse de recherche. N'est-ce pas? L'hypothèse de recherche consiste à voir que la substance est première dans l'ordre de l'être. La substance est première dans l'ordre de l'être. Si la substance est première dans l'ordre de l'être, nécessairement, partout où vous aurez des premiers, il y aura une possibilité de confondre la substance et le premier. Alors, nous avions vu ensuite le point de vue du sujet. Le sujet est bien premier dans l'ordre logique et dans l'ordre du devenir. Il y a une priorité des deux. Mais le premier dans l'ordre logique et le premier dans l'ordre du devenir n'est pas le premier dans l'ordre de l'être. C'est différent, c'est pas la même chose. Et donc on ne peut pas identifier le premier dans l'ordre de l'être avec le premier logique et le premier dans l'ordre du devenir. Ça peut être. Nous posons maintenant la question au point de vue de la forme. Hein? La forme. Il s'agit de savoir si la substance, qui est la substance, est bien moitié de la forme. La forme est première, la primauté de la forme, est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Dans l'ordre de l'intelligibilité, il y a bien une priorité. Une priorité du côté de la forme, priorité du côté de l'intelligibilité. Cette priorité dans l'ordre de l'intelligibilité, nous la découvrons en premier lieu dans le point de vue du Sotitrema. L'intelligibilité première, la plus parfaite, c'est le Sotitrema. Quand je veux comprendre une chose, je désire son Sotitrema. Il faut donc essayer de prouver que le Sotitrema est bien la première intelligibilité. L'intelligibilité parfaite. Pour comprendre que c'est la première intelligibilité, on va essayer d'expliquer par le katoto. On se sert du katoto pour comprendre que c'est que le Sotitrema. Ça, c'est bien évident. Bon, on se sert de l'aspect du katoto pour essayer d'expliquer le Sotitrema. Et on précise, parce que les katotos sont plusieurs, que ce n'est pas n'importe quel katoto, mais c'est le katoto premier qui exprime bien cela. Donc par là, en se servant du katoto, on essaie de comprendre le Sotitrema pour comprendre que le Sotitrema, c'est la première intelligibilité. Non seulement on se sert du katoto, mais on va se servir aussi de la définition. Les deux aspects. Mais, alors, il faut bien comprendre la différence entre le katoto et la définition. Alors, la définition apparaît comme le logos premier. Le logos, au sens tout à fait cathé premier, c'est la définition. Vous voyez ? Le cathoto, c'est l'attribution, et la définition n'exprime pas l'aspect de l'attribution, mais exprime l'intelligibilité de la réalité en elle-même. Et c'est ce qui fait ce passage très difficile, parce que Aristote n'avertit pas. Vous voyez ? C'est toujours la même chose, c'est Aristote qui prend des notes. Alors nous aurions des paragraphes différents, nous aurions des coupures, on avertirait et on mettrait cela. Alors ça n'avertit pas. On passe du gâteau, la recherche du gâteau est très importante, puis tout d'un coup au logos, il y a la suite de la définition. Tout cela est en but de comprendre le dossier millénaire. Et de comprendre que le dossier millénaire, c'est l'intelligibilité fondamentale, l'intelligibilité première. Or, l'intelligibilité première, eh bien, il y a l'être premier. Il y a un lien entre les deux. Si l'être premier est nécessairement l'être le plus intelligible. Mais est-ce qu'on peut identifier le si-est-si de l'être premier et le si-est-si de la première intelligibilité ? Tout le problème est là. Pour montrer qu'on ne peut pas les identifier, bien que de fait, il y ait une rencontre profonde entre ce que représente l'être premier et la première intelligibilité. Vous voyez ? Alors je crois que c'est ça qui donne, encore une fois, après il faut regarder le texte, avec la minutie de regarder le texte. Mais je crois que c'est ça qui nous aide à comprendre l'intention d'Aristote. Vous voyez ? Je vous donne mon hypothèse de recherche. Et mon hypothèse, j'ai essayé de la vérifier. Je ne dis pas que ça explique tout. Mais ça explique, je crois, la démarche essentielle d'Aristote. Et alors là, nous comprenons que nous sommes toujours dans cet affrontement des premiers. Et je crois que c'est ça le livre de ça. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons que la substance est l'être premier. Parce qu'il n'y a pas que la substance est première dans l'ordre de l'être, mais il y a d'autres premiers. Il y a le premier dans l'ordre du venir, il y a le premier dans l'ordre logique, il y a le premier dans l'ordre de l'intelligibilité, et ainsi de suite. Alors, est-ce que nous pouvons identifier le premier dans l'ordre de l'être avec les autres premiers ? Il est bien évident que la forme est première. Il l'a dit ça. La forme est première. La forme est antérieure à la matière, la forme est antérieure au composé. Donc la forme est première. Mais est-ce que la forme est première dans l'ordre de l'être ? Pour Platon, oui. Pour Aristote, est-ce qu'on peut dire que la forme est première dans l'ordre de l'être ? Je ne crois pas. Il dira que c'est l'idée. C'est la distance. Et il n'identifiera pas au bien de ses formes. Vous voyez ? Mais la forme est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Parce que c'est justement ce par quoi l'être est déterminé, la forme. Et c'est de par quoi un être possède son intelligibilité. Donc, la difficulté, ce sera d'essayer de comprendre comment la forme n'est pas première dans l'ordre de l'être. Si la forme était première dans l'ordre de l'être, forme et substance dans l'ordre de l'être. Alors, oui, ce sont toutes ces notions qu'Aristote essaie de montrer en parallélisme pour essayer de préciser exactement le qui est qui de la substance. Je crois que c'est ça que nous devons essayer. Alors, je reprends en quelques mots seulement pour continuer ce que nous avions vu la dernière fois, et je n'insisterai pas plus. Je ne pourrais pas voir tout le livre comme ça, mais pas, nous soyons similaires, mais ici j'ai voulu prendre en compte la pièce dominante, et puis après nous irons assez rapidement, parce que autrement on va s'assainir. Après un effort de précision, je reprends le début du chapitre 4 que nous avions vu la dernière fois, mais je ne reprends pas analytiquement. Donc, après un effort de précision, pour montrer avec exactitude ce qu'est le TMMA, c'est-à-dire le katoto au sens le plus précis, puisque le TMMA s'explique par le katoto au sens le plus précis, pour écarter ce qui est dit accidentellement, ce qui est dit essentiellement, mais en second lieu, ce qui implique une composition. C'est quelque chose de premier, voilà le katoto, le TMMA. C'est quelque chose de premier, c'est donc quelque chose de simple. C'est quelque chose de simple au niveau du logos, c'est-à-dire au niveau de l'intelligibilité. Donc on fait appel à la notion, au point de vue du logos, qui exprime l'intelligibilité. Le logos, c'est le discours qui exprime l'intelligibilité de la chose. Et donc, c'est quelque chose de simple au niveau de l'intelligibilité, au niveau du logos. Non seulement au niveau du nom. Je crois qu'il y a là cette partie, vous savez, sur laquelle on a vu la difficulté quand on passe de l'homme blanc à ce nom, le passage de la réalité et puis le passage du nom. Alors il veut montrer que, de fait, le point de vue de l'intelligibilité, le point de vue du social animal, c'est le premier dans l'ordre de l'intelligibilité au niveau de la réalité, mais pas au niveau du nom. Il peut y avoir des noms simples dont la signification soit complexe. C'est ça ? Alors, si de fait nous étions au niveau du premier dans l'ordre du nom, on pourrait identifier ces 100 événements. Un nom simple, sans pays, alors on montre que la primauté dans l'ordre du nom n'est pas la primauté dans l'ordre de la technicité. C'est pas qu'il peut y avoir des noms qui impliquent une intelligence complexe. Et pour bien être en lumière, on se sert alors aussi, c'est bien tout petit peu compliqué, du nom katoto. C'est ce petit passage où Aristote se sert du nom katoto. Le nom katoto, qui est soit ce qui provient d'une addiction, soit ce qui ne provient pas d'une addiction. Mais qui signifie quelque chose de complexe. Ce qui implique une composition, on voit bien, c'est tout à coup, l'homme blanc, ce qui n'implique pas d'addiction, complètement. Vêtement, il n'est pas un cateau, c'est un nom katoto qui n'implique pas d'addiction, mais qui a une signification complexe. Alors, le nom katoto, c'est allo-cat-allo. En opposition, on oppose au katoto le katallo, c'est-à-dire celui qui est selon un autre. Le katoto, c'est celui qui est selon lui-même, alors que le katallo, c'est celui qui est père à lui. Hein, le père à lui, opposé au versé. Alors, le nom, donc, le nom katoto, c'est allo katallo. Donc, le toti aineikunan ne peut signifier qu'un toti. On arrive à cette conclusion. Après cet ensemble de notions, et c'est très compliqué, hein, si vous essayez de saisir toute la complexité d'Aristote, vous voyez qu'il y a, on se sert du katoto, on se sert du logos et de la définition, on se sert du mais katoto. Donc, il y a trois instruments, trois manières instrumentales d'arriver à purifier l'intelligibilité du toti aineikunan. Le niveau du katoto, le niveau de la définition, du logos, et le niveau du non-katoto. Toujours la négation qui est toujours là pour nous aider à mieux comprendre. Hein? Alors la négation du katoto, c'est essayer de comprendre que justement, on n'est pas en face de quelque chose de premier et simple. Donc, le tienaïnaï ne peut signifier qu'un todeki. Le todeki ne se trouve que dans les substances. Donc le tienaïnaï est seulement de ceux dont le logos et orisme. Donc, le logos et l'épisme. Il n'y a définition que s'il s'agit d'un premier individu. Le si eneinal n'est pas, donc, le si eneinal n'est que pour les formes fondamentales. Voilà, je crois, en définitive, ce qu'il nous donne. Alors, à partir de là, une fois qu'on a fait cette purification pour arriver à découvrir que le si MNA, regardez le point de vue de regarder uniquement les formes fondamentales, Aristote nous donne alors une détente, 1030 A 17, ou bien est-ce que la définition elle aussi, comme le CSC, est dit pour la cause. Vous voyez, il y a deux détentes dans sa question. C'est très intéressant, point de vue détente. Je crois que point de vue détente est extrêmement fort. C'est pour ça qu'on a avantage à regarder le texte avec beaucoup d'intérêt pour essayer de comprendre bien. C'est cette espèce de purification qui se fait à ces trois niveaux différents. Les triples purifications. Pour arriver à saisir que le si eneinal ne regarde que les formes fondamentales, les formes premières. Toutes les formes qui ne sont pas premières, nous ne pouvons pas les exprimer par le si eneinal. Seules les formes premières impliquent le si eneinal. Alors, une fois qu'on a fait cette purification, alors à ce moment-là, on peut regarder autre chose. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la définition, elle aussi, comme le CSI, est dit pour la cause? Alors, seconde instruction. Alors, c'est important aussi ce second aspect, parce qu'il nous fait comprendre que la condition du logico n'est pas une position purement logique, mais qui implique bien la signification dans l'ordre de l'être. Alors Aristote va faire le parallélisme au niveau de ce que représente l'orisme de la description, le si est. C'est très important de voir que le fait que le si est, l'interrogation a un sens plus essentiel. Alors voici ce qu'il va nous dire. En effet, ce qui est le do si est, le do si est, signifie
politique, en un autre chacun des prédicaments, la quantité, la qualité, etc. En effet, de même que le taux est si, vous voyez qu'il y a le taux qui est si, et puis il y a le taux est si. Vous voyez ces graduations, comme c'est intéressant à voir, ça me porte au même niveau. Il y a la graduation, la définition active, le taux qui est là. Il y a le si est si, et puis il y a le taux est si. Le taux est si, le S. Tandis qu'ici, on dirait le qui est. Le quête, l'interrogation. Ici, la définition, l'horizon exprime le taux de Ténéda. Alors, voyez bien. En effet, ce qui est, le taux qui est, signifie en un sens l'ousia et le taux des. En un autre, chacun des prédicaments, la quantité et la qualité. En effet, de même que le taux est. Se trouve en tous, mais non d'une façon identique, puisqu'en premier lieu et absolument dans la substance, et ensuite dans les autres. Parallèlement, le qui est qui. Donc on fait un parallèle entre le taux perdu et le qui est qui, pour montrer que le qui est qui se trouve en premier lieu dans la substance, en second lieu dans la qualité, et ainsi de suite, les prédicaments. De même, le qui est qui, la même chose. Les prédicaments, la qualité, la quantité, expriment quelque chose. Ce n'est pas rien, ça exprime quelque chose, ça touche quelque chose de réel. De même, le qui est. En effet, de la qualité, nous pouvons demander ce qu'elle est. Donc nous demandons de la qualité, qui est qui, ce qu'elle est. Elle est donc au nombre de qui est qui, mais pas d'une manière absolue. Le qui est qui de la qualité n'est pas le qui est qui absolu, puisque le qui est qui de la qualité dépend d'un premier qui est qui. La signification profonde de la qualité est en dépendance de ce que représente la substance. Donc il y a bien un qui est qui de la qualité, mais le qui est qui de la qualité n'est pas le même. N'est pas le qui est qui absolu, c'est un qui est qui second. Mais de même, alors je continue toujours pour bien voir avec vous, mais de même, c'est pour. Mais de même, cependant, ce n'est plus immédiatement ce qui est premier. Et c'est pourquoi. Ce qui a été dit étant clair maintenant, Aristote considère que c'est mais de même qu'en parlant du non-être, certains prétendent que le non-être est, non pas absolument, mais en tant qu'il est non-être, il en va de même ainsi aussi pour la qualité. Il faut donc examiner aussi comment il faut dire cela à l'égard de chaque prédicament, cependant ce n'est pas plus important que de savoir comment chacun se comporte. Donc vous voyez le raisonnement du point, parce que je crois que ça est très important. C'est d'essayer de voir que la définition, comme ce qui est qui, comme ce qui est, se dit d'une certaine manière pour la cause, c'est-à-dire de multiples manières. Si ça se dit de multiples manières, il y a quand même un premier, et les autres sont en référence de ce premier. Et c'est pourquoi, ce qui a été dit étant clair maintenant, l'activité appartiendra en premier lieu et absolument à la substance, et ensuite aux catégories, comme le qui est qui. Et alors, il ne s'agit plus d'un qui est l'aimal, au sens absolu, mais d'une quidité propre à la qualité ou à la quantité. Il faut en effet, ou bien que l'on appelle ces choses des êtres par équivocité, ou bien par addition ou par soustraction, comme le non-connaissable et l'inconnaissable, puisque en vérité il est juste de dire cela ni par équivocité ni par univocité, mais à la façon du médical, qui est dit par référence au même et à un unique, n'étant pas le même et l'unique, mais n'étant pas pour autant par équivocité. Donc Aristote se réfère ici à quelque chose, un lieu bien connu, le lieu du livre Gamma, où il montre que les attributions peuvent se dire par équivocité ou d'une façon univoque, ou au contraire, les attributions peuvent se dire pour la cause en fonction d'un premier, et selon un certain ordre. Et alors, à ce moment-là, si on prend un certain ordre, tout se dit en référence à un premier. Et c'est en référence à ce premier qu'il faut essayer de comprendre justement l'aspect que nous disons, nous, analogie. L'Aristote ne l'appelle pas analogique, hein. Il faut bien comprendre cela. En effet, un corps un travail ou un instrument n'est pas médical, ni par équivocité, ni cathothèse, mais prosthèse, c'est-à-dire en référence vers un ami. Mais de quelque manière que l'on veuille parler de ces choses, peu importe. Ce qui est clair, c'est ça qui nous regarde, la question d'analogie, nous ne la regardons pas ici, ce qui est clair, c'est que la définition au sens absolu est premier, et la quidité sont propres aux substances. Néanmoins, pour les autres choses aussi, il peut y avoir définition et quidité, mais non au sens premier. Il n'est pas nécessaire en effet, si nous admettons cela, qu'il y ait définition de ce dont le nom signifie, le même par le logo, le logos, mais de ce dont le nom signifie le même par un certain logos. C'est le cas s'il s'agit d'un nom, d'un objet un, non par continuité, non par le point de vue de la continuité. Donc voyez bien comment Aristote dans ce livre, je crois que ça nous a mis sur le terme, c'est pas la peine de l'inviter plus, nous voyons comment la définition, le diestique et l'esprit sont dits de façon diverse, selon la distance, selon la qualité, selon la quantité, mais ils sont toujours dits en référence à un premier. Alors, ce qui permet de dire que la substance est bien la quidité au sens de tout absolu. Mais le diesti de la substance n'est pas la quidité. Je vous demande, ça c'est important de comprendre, hein. Si le raisonnement d'un autre, c'est ça, comprenez au moins la conclusion. Comprenez au moins que la substance, c'est le totienenal au sens absolu. La substance est le totienenal au sens absolu, c'est-à-dire la quidité. Elle existe parfaitement lorsqu'il s'agit de cette forme première qui est la substance, comme vous avez dit la substance. Mais le siesti de la substance, c'est ça que nous cherchons. Qu'est-ce que c'est la substance? Le siesti de la substance n'est pas le totien nénal. Pourquoi? Parce que si le siesti de la substance était le totien nénal, comme il y a un totien nénal à l'égard de la qualité, à l'égard de la quantité, la qualité et la quantité seraient substance. C'est extrêmement net et précis si nous regardons le texte. Donc nous voyons qu'Aristote nous montre là que la substance, nous dirions, c'est le lieu de la plus grande intelligibilité. L'intelligibilité, la substance, est de fait en Lousia. Lousia représente l'intelligibilité première. Toutes les autres intelligibilités dépendent de cette première intelligibilité. L'intelligibilité première, c'est vraiment l'intelligibilité de Lousia. Donc, toutes les autres déterminations, toutes les autres catégories sont en dépendance de cette intelligibilité au sens fort. Mais nous ne pouvons pas identifier le point de vue de Lousia et le point de vue de la physique. Chapitre 5. Alors, le chapitre 5 va soulever deux difficultés, deux apports. Elles sont intéressantes parce que de fait, elles montrent le point de vue de la physique et le point de vue de la physique. Si on soulève que le logos provient d'une addition, donc si on déclare que le logos provenant d'une addition n'est pas définitif, car c'est le cas des réalités composées, par exemple, le nez et la concavité. Ce sont des exemples qu'Aristote aime beaucoup. Le calus se dit à partir des deux, l'un étant dans l'autre. C'est-à-dire la concavité dans le nez. C'est ça le calus. Et il ne s'agit pas d'une union accidentelle. La différence entre la concavité et le calus et entre le blanc et calia. Blanc et pierre. Le blanc est possible sans l'or. Alors que le fait que la concavité calus implique nécessairement le point de vue du nez. Il prend le même exemple lorsqu'il s'agit de l'animal et du sexe, et le point de vue de la quantité est égal. Égal n'est pas possible sans la quantité. Il y a donc un catoto, c'est donc une propriété. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour fonder une définition? Donc la quidité et la définition de ces réalités impliquent nécessairement le point de vue de cette composition. Vous voyez la première objection. La première objection consiste à dire, nous ne définissons pas seulement la première intelligibilité. La définition regarde toute intelligibilité essentielle. et pas seulement la première indemnité. Nous sommes en présence du catoto de la propriété. Le catoto de la propriété n'est pas le catoto premier, n'est pas le catoto du deuxième ménage, mais nous pouvons définir une réalité qui implique des biens essentiels. Premier rapport. Vous voyez que le premier rapport revient tout simplement sur la distinction qu'on avait faite au niveau des catotos. C'est donc là une précision par rapport à ce qui avait été dit précédemment. Deuxième rapport, qui sont identiques, mais Camus et les concaves. Le Camus et le concave sont identiques. Alors jouez ici, c'est ça du frère, hein, jouez là-dessus. Concave et Camus, vous allez les décliner à la décision. Mais on ne veut pas le dire, car le Camus implique le nez. C'est la concavité dans le nez. Donc si on dit nez Camus, on dit deux fois. On l'a dit deux fois, à l'égard de la même chose. Donc il y a une réflexion, et donc nous sommes en face de quelque chose qui ne va plus. C'est donc une absurdité que d'appliquer à ces choses la curiosité. Autrement, on irait à l'infini dans mais Camus. Et il y aurait alors encore un autre mais. Donc vous multipliez les mais, tout simplement en regardant la chose. Alors vous voyez que cette seconde aporie, très subtile, montre tout simplement que le cas de la propriété implique le sujet. Si le cas de la propriété implique le sujet, nous ne pouvons pas les abstraire. Autrement, on arrive à la multiplicité, on est jaloux. Alors voici la réponse. Aristote répond. Livre 31a. Premièrement. Donc, à l'égard des deux catégories. Donc, il est évident qu'il n'y a pas de définition que de l'oubliant. Donc, il reprend. Il est évident, qu'il n'y a de définition que de l'oubliant. S'il y a une définition des autres formes, catégories, il est nécessaire que ce soit paradoxal. L'impair ne peut être défini que par le nom. L'égal sans la quantité. Le sexe sans la lumière. Donc voyez bien que Aristote montre ici que seul l'ousia peut appliquer une définition. Pourquoi? Parce que seul l'ousia implique une intelligibilité première. Si l'ousia seul implique une intelligibilité première, et non pas une intelligibilité relative à autre chose, l'ousia est quelque chose de simple qui peut donc être défini. La définition impliquant nécessairement quelque chose de simple. C'est un logos qui implique quelque chose de simple. Deuxièmement, il n'y aura pas de définition de choses comprenant deux éléments. Par exemple, le nombre impair. Mais, à supposer qu'il y ait une définition de ces choses, ou bien ce sera différemment, ou bien il faut que la quantité et la définition soient distinctes de plusieurs façons. En un sens, il n'y a de définition que de la substance, en un autre sens, il y a de définition des propriétés. Donc Aristote reprend tout simplement les deux grandes affirmations du chapitre précédent, il n'y a rien de plus. Les deux apports y étaient là pour montrer les difficultés, et Aristote reprend d'une part la définition ne peut regarder que la substance. Pourquoi? Parce que seule la substance a une intelligibilité simple, et absolue. Toutes les autres intelligibilités des catégories et des propriétés sont relatives à autre chose, donc à une proposition. Ou au contraire, le point de vue, le second point de vue, c'est de montrer que les définitions comme telles.
13e cours.
Nous sommes arrivés de l'organisation du troisième cycle des séminaires. C'est pas, je crois que c'est le seul que je vais faire. Je vais encore faire aujourd'hui l'effort de l'analyse, et puis pour après, j'irai très vite. Pour que nous ne restions pas indéfiniment sur le livre présent. Pour que surtout vous essayiez de saisir un peu ce que Aristote veut nous dire. Très vite, ça ne veut pas dire que je passerai à toute vitesse. Je vous donnerai un travail que j'ai fait dans le temps sur le livre présent, en reprenant, pour que vous donniez l'essentiel. Et puis alors, nous arrêtons spécialement sur le dernier chapitre, qui me semble particulièrement important. Nous avons fait quand même un effort déjà assez important sur ce livre d'État. Nous allons faire le même effort encore sur le livre, sur le chapitre 6 aujourd'hui. Mais je ne m'attarderai pas plus sur vous avant que je vous ai ce sera un peu trop long, et comme on le fait au séminaire, ça double un peu trop. Voilà, l'effort qu'on fait au séminaire. Je sais que c'est pas la même chose, l'effort du séminaire et l'effort du cours, et étant donné la difficulté du sujet, on peut l'entendre deux ou trois fois, les perspectives différentes, étant donné que c'est quand même difficile. Alors, je reprends, si vous voulez, pour que nous voyons mieux ce chapitre ici, que nous allons voir maintenant. L'effort d'Aristote est toujours donc de saisir le si et si signifie. Qu'est-ce que c'est que nous? Et pour lui, c'est capital parce que le si et si du dia rejoint le si et si de l'être. Et c'est pour ça qu'en précisant le si et si de dia, on pénètre dans ce que représente la philosophie première. Si on ne saisit pas le si et si du dia, on ne peut pas pénétrer dans cette considération particulière de la philosophie première, qui est de saisir ce qui est en tant qu'être. Là, il y a des données extrêmement importantes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, car il se identifie. L'être et la substance, comme dit Gibson. C'est pas juste. Enfin, Gibson, c'est la deux grandes erreurs. Il identifie, Aristote identifie la substance et l'être, et il dit qu'il identifie la substance et la forme. Alors, dès qu'on regarde le point de vue du livre de l'État, je dis ça parce que c'est important, parce qu'à partir de là, il dit la métaphysique d'Aristote est la métaphysique de la forme. Tandis que la métaphysique de Saint-Thomas, c'est une autre métaphysique, c'est la métaphysique de l'esprit. Dès que vous regardez le livre de l'État, vous vous apercevez que le problème est un peu plus complexe. Vous apercevez en effet qu'Aristote dit que la substance Lydia est très très importante. Et que saisir le si et si de Lydia, c'est saisir le si et si de l'être. C'est très vrai ce point de vue-là. Et ça ne veut pas dire qu'il y a identification entre les deux. Saisir le si et si de l'être, le si et si de Lydia, c'est saisir le si et si de l'être. Mais il y a d'autres questions sur l'être. Et nous verrons qu'il y a d'autres questions sur l'être. Après le livre de l'État, la philosophie première n'est pas terminée. Il y a encore d'autres aspects dans la philosophie première. Mais s'il y a des identifications entre l'être et l'Ousia, la philosophie première d'Aristote paraîtrait avec le livre de l'État. Alors, la philosophie première d'Aristote ne s'arrête pas avec le livre de l'État. Il y a d'autres enquêtes, il y a d'autres recherches qui montrent bien, encore une fois, qu'on ne peut pas identifier les deux. Mais cependant, il faut reconnaître que lorsque je suis dans l'interrogation du livre, l'interrogation du défi est une interrogation fondamentale. C'est justement celle qui me permet de déterminer ce qu'est la chose. Lorsque je suis dans la perspective du qui est qui, il y a une rencontre entre savoir le qui est qui de l'être et le qui est qui de l'être. Ça, c'est dit avec beaucoup de force, et je crois que c'est quand même un aspect très important dans la pensée d'Aristote. Savoir le qui est qui de l'IA, c'est essayer de comprendre justement ce que c'est la substance. Or, Aristote se trouve devant certaines opinions sur la substance, et en gros, il se trouve surtout en face de ce que Platon a dit sur la substance, et Aristote n'est pas d'accord avec ce que dit Platon sur la substance. Alors, il s'agit d'essayer de voir l'erreur. Ça, il est toujours très, très polarisé, d'une certaine manière, avec Platon et avec les catholiciens, et pas surtout les catholiciens. Et donc, il est là en attitude, si vous voulez, c'est qu'il est précisé exactement pourquoi on ne peut pas identifier la forme et l'idia. On ne peut pas ramener, d'une certaine manière, l'idia aux formes. Alors la première chose qu'Aristote montre, c'est qu'on ne peut pas dire que le qui est qui de l'idia, c'est le sujet. Vous l'avez dit. Bien qu'encore une fois, le sujet est quelque chose de fondamental et que la substance est quelque chose de fondamental. Et donc, il y a entre sujet et substance, il y a toujours, une rivalité. Vous voyez dans quel sens? C'est qu'il y a toujours quelque chose de parallèle entre les deux. C'est que la substance va, de fait, jouer le rôle de sujet. En logique, la substance première, c'est le sujet. En logique. Si donc j'identifie logique et métaphysique, j'aurai toujours la tendance de dire que la substance, c'est le sujet. Parce que du côté logique, on peut dire en effet que la substance première, c'est bien le sujet. Donc nous voyons là tout de suite, du côté de la logique, que l'identification de la substance et du sujet montre bien qu'il y a un parallélisme entre les deux. Je crois qu'on peut dire qu'une des fonctions principales de la substance, c'est d'être sujet. Mais ce n'est pas le qui est qui de la substance. Autre chose, la fonction. Autre chose de qui est-ce. Or, on montre par là qu'il y a une possibilité. Et la grande raison de Aristote, qu'on ne peut pas dire que qui est-ce de la substance, c'est le point de vue du identifier la substance et la matière. Or, la matière ne peut pas être substance parce que la substance est un taudis. Parce que la substance est un être premier, un être pris au sens le plus fort. Or, la matière est toujours quelque chose de plus second. On présuppose connu ce que c'est que la matière. Hein. Aristote a précisé ce que c'était que la matière en philosophie de la nature. Et en philosophie de la nature, il a précisé ce que c'est que la nature. Et donc, il montre là qu'on ne peut pas tout identifier le point de vue de la substance et le point de vue du sujet. Et là, donc, un aspect qui est très important. Il est important de voir que c'est la première chose qu'Aristote rejette. Il rejette cette identification. C'est l'identification qu'on fait plus facilement quand on identifie logique et métaphysique et quand on identifie philosophie de la nature et métaphysique. Parce qu'en philosophie de la nature, le point de vue fondamental, c'est le sujet. Et en philosophie de la nature, on peut d'une certaine manière ramener le point de vue de la substance au point de vue du sujet. Pourquoi? Parce que c'est ce qui demeure. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de Platon. Hestia, la déesse Hestia, c'est celle qui demeure. Et que Platon considère que c'est le point de vue Hestia, c'est Ousia. C'est un lien entre les deux. Donc quand vous regardez la substance uniquement comme ce qui demeure, par rapport au devenir, ce qui demeure, c'est le sujet. Et donc, vous avez là un parallélisme très important à saisir entre le point de vue de la substance et le point de vue de ce qui demeure, c'est-à-dire le point de vue du sujet. Donc, si vous identifiez philosophie première et logique, philosophie première et philosophie de la nature, vous aboutissez fatalement à dire que le qui est qui de la substance, c'est le sujet. Car ça ne l'accepte pas, que pour lui, justement, la philosophie première n'est pas la logique, et que la philosophie première n'est pas la philosophie de la logique. Ensuite, Aristote va regarder le point de vue de, le paradoxe, de voir comment la substance est parallèle à la forme, et cependant n'est pas la forme. Et ça, ce point de vue-là. Et on comprend comment on vient à ça, parce que si la substance n'est pas le sujet, immédiatement, ce qu'on va regarder ensuite, c'est le point de vue de la substance, c'est le point de vue de la forme. Là, il y a des raisons historiques, et puis il y a une raison très très nette, c'est que si la substance n'est pas la matière, elle est peut-être la forme. Que la forme a une primauté sur la matière. Mais toujours, ce qui est premier dans un ordre donné a un parallélisme avec l'ousia. Parce que l'ousia, c'est justement ce qui est premier dans l'ordre donné. Alors nous allons, à partir du chapitre 3, entrer dans cette grande confrontation, qui arrive à dire que c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est d'essayer de voir la différence entre la forme et le point de vue de l'ousia. Et je crois que là, au point de vue philosophique, il y a un intérêt très grand, même si quelquefois dans les discussions d'Aristote, c'est pas toujours très finalisé, vous voyez, en fait, on peut dire, on voit pas tout de suite l'intérêt. Je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement important à bien dire. Ça, je reviens un peu, parce que quand on est sur le cours, moi, je vais dire à mieux comprendre le point de vue philosophique. De voir que l'aide pour Aristote, se prête par rapport à la matière. Autrement dit, la division forme et matière est une division typique de la philosophie de la nature. Ce n'est pas une division propre à la philosophie première. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, je crois que c'est très important d'écouter ça. C'est très important qu'elle nous libère d'une quantité de chaînes dans laquelle on reste et dans laquelle on reste lié. La distinction matière et forme est une distinction qui est une distinction grecque antérieure à Aristote. C'est pas Aristote qui l'a fait la première, elle est bien antérieure à Aristote. Et Platon la donne d'une façon grandement forte. La distinction matière et forme. Mais pour Platon, il y a une forme, justement, qui n'est pas le rôle de la matière. Et donc la distinction, le dualisme matière et forme, est une distinction extraordinairement profonde chez Platon. Et chez Platon, elle est une distinction qui va jusque dans l'ordre de l'être. Puisqu'au fond, c'est vraiment cette distinction-là qui commande toute sa grande vision. Aristote en parle de cette distinction matière et forme, cette distinction de Platon, que Platon à laquelle Platon a donné une telle importance. Que va faire Aristote? Il va relativiser cette distinction. Je crois que c'est ça qui a là quelque chose d'extrêmement important à saisir. Il va relativiser cette distinction en comprenant que cette distinction matière et forme est une distinction qui est au niveau de la nature et qui est au niveau donc de la philosophie de la nature. La philosophie de la nature est la philosophie de ce qui est lui. Donc, la distinction respiratoire est une distinction à l'intérieur de ce qui est vu. C'est l'être sensible, l'être qui est vu qui implique la distinction respiratoire. Il retrouve cette distinction dans la philosophie du vivant, parce que le vivant est encore un être nu. Et donc, en tant qu'il se meut, il est nu aussi. Et donc, on retrouve la même distinction entre matière et forme. On aura la distinction âme-forme. C'est une transposition de cette distinction forme-matière. Ce qui n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a une précision particulière quand on dit âme et quand on dit corps, on ne dit pas matière et forme, mais on voit très bien que c'est un dualisme semblable, analogue, si vous voulez, à celui de matière et forme. Quand on est en philosophie de première, ce qui commande tout, c'est le point de vue de l'être, le plus point de vue du génie. Or, dans cette perspective de l'être, Aristote essaie de saisir ce qu'est l'être. Pour saisir ce que l'être, il nous montre, il faut saisir ce qu'est la substance, et donc il s'agit immédiatement de voir si la substance, ce qu'est la substance, ce qu'est la substance dans laquelle elle a décidé d'elle-même, est pour nous identifier l'être. Si vous identifiez substance et exode, puisque forme et matière s'opposent, nécessairement substance et matière vont s'opposer. C'est autrement. S'il y a une opposition entre matière et forme, il doit avoir retrouvé la même opposition entre substance et matière. Or, justement, on va voir comment la substance va aller plus loin que la forme et va dépasser cette distinction matière et forme. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que la matière est un principe substantiel d'individuel. Comment on ne peut pas dire ? C'est moi qui le dis. On ne pourrait pas expliquer comment, de fait, le point de vue corporel est essentiel et substantiel à l'homme. Il y a une vision, une opposition. Pour Platon, ça ne fait pas du tout, puisqu'au fond, l'homme, c'est son âme. Le corps est le sépulcre de l'âme, n'est-ce pas ? Alors, le corps, c'est par le fait même. Donc, il ne fait pas du tout partie de la substance. Tandis que dans la vision d'Aristote, il y a au contraire cette vision de l'unité de l'homme, cette unité de l'homme au niveau de son être et au niveau de sa vie, il faut essayer de les comprendre. Alors, on comprend que le problème de la substance et de la forme est un problème capital pour Aristote, tout en reconnaissant que c'est très très difficile. C'est très difficile de voir comment le sceptique de la substance n'est pas le principe de la forme. Je crois qu'on peut dire que la substance va, en quelque sorte, impliquer tout ce qu'il y a dans la forme, mais qu'on ne peut pas ramener la substance, le sceptique de la substance, à la forme. Oui, alors c'est cet effort que nous faisons pour essayer de comprendre comment la substance, si elle dit la substance, ne peut pas se ramener à la forme. Comme c'est très très difficile, Aristote va prendre une double méthode. C'est ce qu'il faut faire. Une méthode logico et une méthode fusico. Donc le logico, c'est ce qu'il va commencer à faire quand Aristote commence à parler à partir du chapitre 4. Alors le logico d'Aristote, nous avons déjà commencé à le voir, mais il faut tout faire venir. Je vous l'ai dit, le mot logico d'Aristote peut prendre des significations différentes. C'est une méthode d'intelligibilité critique, une méthode logique au sens aristotélicien, c'est-à-dire logique en impliquant le point de vue de la signification. Ce n'est pas logique purement formelle, mais c'est logique en impliquant le point de vue de la signification. Alors on va regarder uniquement la signification, c'est l'option, c'est le logos pour quelque sorte. Traduire le logos d'Aristote. Qu'est-ce que ça représente ? On va avoir un discours, si vous voulez, une recherche qui va essayer d'être la plus rigoureuse qui soit dans l'ordre de la signification. Donc, on va pas regarder ce qui est, on va pas regarder l'ordre existentiel, comme on dit aujourd'hui, on ne regarde pas ce point de vue-là, on regarde uniquement le point de vue de la signification profonde qui est instituée dans le point de vue de l'essence, pour voir si cette signification va rejoindre la signification de l'idée. C'est toujours le but d'essayer de voir la différence qui existe entre l'exode et l'idée. Vous réfléchissez à ça. Quelle différence existe entre l'exode et l'idée? L'exode est première dans l'ordre du venir. La substance est première dans l'ordre de l'être. L'exode est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Dans l'ordre de l'intelligibilité, vous allez voir l'exode. C'est premier dans l'ordre de la définition. Qu'est-ce qu'on définit? C'est l'exode. pas? Alors, est-ce qu'on pourra mettre l'identité en cause? Alors, nous avions vu le chapitre 4, enfin, déjà les deux dernières fois, où Aristote commence l'étude de l'affrontement de l'Exode par rapport à Lydia en voyant le toti emena. Alors, ce mot qu'Aristote a fabriqué, toti emena, Aristote a fabriqué justement pour essayer de réduire la différence qui existe entre Lydia et l'Exode. C'est ça qu'il faut saisir. Et là, quand il s'adresse à un mot, c'est parce que justement, il y a là un aspect particulièrement important. Saisir la différence qui existe entre Tristan et l'État, c'est pas comme ça. Alors, on va essayer de dire l'intelligibilité de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité de l'État? Comment l'État, face à l'intelligence, détermine l'intelligence? L'intelligibilité de l'État, c'est le taux qui est là. Le Toti Emena. J'espère que vous arrivez à savoir à peu près ce que c'est. Bon, le Toti Emena, au bout d'un certain temps, il faut savoir.